Radir et Fateh, nouveaux sous-marins de nouvelle génération, rejoindront la marine du CGRI dans un proche avenir. Les forces aérospatiales russes frappent les centres de commandement des terroristes en Syrie. Et 3 soldats français ont été blessés par Daesh à Salahuddin, en Irak. C'était les principaux titres, en voici le journal. La marine du corps des gardiens de la révolution islamique recevra dans un prochain avenir la nouvelle génération de sous-marins de classe Radir et de classe Fateh, a confié ce lundi 28 août une source informée du ministère iranien de la Défense. Les deux sous-marins locaux ont été fabriqués par l'Organisation des industries maritimes du ministère iranien de la Défense. La nouvelle avait été déjà annoncée au mois d'avril par le commandant de la marine iranienne, le contre-amiral Shahram Irani, qui avait alors déclaré que les coques des 2e, 3e et 4e modèles de sous-marins Fateh avaient été fabriqués, étaient en cours d'approvisionnement et qu'ils rejoindraient la marine dans un proche avenir. En ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités et capacités opérationnelles des 10 sous-marins, le contre-amiral Irani a ajouté que toutes ces capacités, en particulier le lancement de différents types de torpilles et la détection de différentes cibles sous-marines, avaient été mises à l'épreuve avec succès. Le sous-marin Fateh, d'une capacité de 527 tonnes, est un navire semi-lourd de surface dont le poids en profondeur atteint 593 tonnes. Il a une capacité de plongée de plus de 200 mètres de profondeur, pouvant être maintenu pendant au moins 5 semaines. Fateh est également équipé d'un système de missiles guidés et d'un système radar sonique avancé qui permet d'identifier les navires ennemis. L'Iran a jusqu'à présent lancé différentes classes de sous-marins avancés de fabrication nationale, dont Radir, Raem, Nahang, Tarer et Sina. Le conseiller diplomatique du premier ministre irakien a annoncé que ce pays a conclu un accord de sécurité avec la République islamique d'Iran. Cet accord comporte 3 parties, dont le désarmement des éléments terroristes et séparatistes qui devront aussi être remis aux autorités iraniennes. Hisham al-Rakabi, conseiller diplomatique du premier ministre irakien, a annoncé lundi 28 août que son pays avait conclu un accord de sécurité avec l'Iran, selon lequel la partie irakienne s'engage, en déployant des gardes frontières, à empêcher les séparatistes kurdes et les groupes terroristes de pénétrer sur le territoire iranien. Al-Rakabi a déclaré que cet accord de sécurité comprend 3 volets. Empêcher l'infiltration de personnes armées après le déploiement de gardes frontières, remettre les personnes recherchées après avoir émis un mandat d'arrêt conformément à la loi, et désarmer les groupes terroristes et recourir au démantèlement des camps. Des sources politiques et diplomatiques irakiennes ont annoncé dimanche que les groupes terroristes et séparatistes kurdes présents dans ce pays seraient transférés dans les prochains jours vers les régions occidentales de l'Irak. Ces sources ont indiqué que la République islamique, le gouvernement irakien et les responsables de la région du Kurdistan irakien étaient parvenus à un accord à cet égard. Par conséquent, toutes les armes et tous les équipements militaires seront retirés aux groupes kurdes et transférés à Manat, dans l'ouest de l'Irak, avec leurs familles. Les forces aérospatiales russes ont frappé les centres de commandement des terroristes en Syrie. Le contre-amiral Vadim Kulit, chef adjoint du Centre russe pour la réconciliation des belligérants en Syrie, a souligné que 3 bases appartenant au groupe terroriste du front al-Nusra avaient été détruites lors d'une opération des forces aérospatiales russes. Les forces aérospatiales russes ont lancé des frappes aériennes sur les centres de commandement de l'organisation terroriste Jabhat al-Nusra en Syrie, a déclaré lundi soir Vadim Kulit, chef adjoint du Centre russe pour la réconciliation des partis opposés en Syrie. Le 28 août, les forces aérospatiales russes ont lancé des frappes contre les installations du front al-Nusra, touchant un bastion d'unités armées illégales et 2 centres de commandement chargés d'organiser et de mener des attaques contre les positions des forces gouvernementales syriennes et des infrastructures civiles, a-t-il déclaré. Parallèlement, des unités des forces armées syriennes ont ciblé par des frappes aériennes et de missiles les quartiers généraux des terroristes dans la campagne d'Idlib, détruisant leurs armes et munitions en éliminant un certain nombre. Le ministère de la Défense a déclaré sur sa page Facebook, en réponse aux récentes attaques menées par des groupes terroristes contre les sites et points militaires de nos forces armées opérant dans les environs de Ramah et d'Idlib, des unités de nos forces armées, en coopération avec les avions de combat russes, ont mené des frappes aériennes et de missiles contre les quartiers généraux des terroristes affiliés à Ansar al-Tawhid et Hayarat Tahrir al-Sham, anciennement Front al-Osra, dans la campagne sud d'Idlib. Le secrétaire général du mouvement de résistance libanais Nasrallah a prononcé lundi 28 août au soir un discours à l'occasion de l'anniversaire de la libération des auteurs d'Ersal de l'occupation du groupe terroriste Front al-Osra en 2017, sans manquer d'évoquer les derniers développements ayant lieu au Liban et dans la région. Pour rappel, après 5 ans de présence illégitime dans la région d'Ersal, au nord du Liban, les terroristes du Front al-Osra, à l'origine même de l'insécurité dans cette zone, se sont finalement retrouvés contraints de conclure un accord avec le Hezbollah libanais à la fin de l'été 2017 et de quitter cette région pour la province d'Idlib en Syrie. À l'époque, le secrétaire général du Hezbollah, Saïd Hassan Nasrallah, avait appelé à célébrer la deuxième libération du Liban après la libération en l'an 2000 des régions du sud du pays. Lors de son discours ce lundi soir, Nasrallah a tenu à présenter ses félicitations à l'occasion du jour anniversaire de la libération de Jordan Ersal, point de passage entre la Bekaa libanaise et le Ralamoun syrien. Cet événement, Nasrallah l'a qualifié de grande victoire du peuple libanais face aux groupes terroristes. Nasrallah a affirmé qu'avant cette deuxième libération, les terroristes avaient pénétré dans de vastes zones des hauteurs d'Ersal et utilisaient cette zone montagneuse comme un abri à partir duquel ils envoyaient leurs véhicules piégés vers diverses régions. Une source de sécurité dans le gouvernorat de Salah ed-Din a rapporté mardi 29 août que 3 soldats français des forces de la coalition internationale ont été blessés dans une embuscade tendue par Daesh à l'est du gouvernorat. La source a déclaré à l'agence de presse irakienne Shafaq que les avions de combat de la coalition ont bombardé lundi un repère de Daesh à Al-Aïs, à l'est de Salah ed-Din, détruisant une grande partie de cette position. La source a indiqué que des terroristes daéchistes ont ouvert le feu avec des armes de calibre moyen, blessant 3 soldats français et 2 officiers antiterroristes irakiens. Al-Aïs est considéré comme un point chaud pour le groupe terroriste Daesh en raison de sa vaste étendue géographique et de sa connexion avec les frontières de Kirkouk et de Diyala. Lundi 21 août, l'Élysée a annoncé la mort d'un militaire français, tué la veille en Irak lors d'un exercice opérationnel alors qu'il participait à une mission d'instruction des forces armées irakiennes. Quelques jours avant le début de vastes exercices militaires en Biélorussie, l'Alliance politico-militaire OTSC a annoncé son intention d'intensifier ses liens avec l'Afrique. L'Organisation du traité de sécurité collective OTSC, qui réunit 6 pays issus de l'ex-Union soviétique et les pays africains, pourrait organiser des événements conjoints et des observateurs africains pourraient se rendre aux exercices militaires du groupe, annoncé le 28 août. Anatoly Sidorov, chef d'état-major unifié de l'OTSC, cité par Sputnik. Comme les États membres de l'organisation, Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russie et Tadjikistan ont de très bonnes et étroites relations avec des pays d'Afrique, il doit donc y avoir une perspective pour la présence d'observateurs africains aux exercices et à d'autres actions communes, a indiqué le général de corps d'armée lors d'un point de presse à Moscou. Le général a tenu ses propos 4 jours avant le début de grands exercices opérationnels stratégiques de l'OTSC qui impliqueront 2500 soldats et plus de 500 équipements militaires. Baptisé Fraternité de combat 2023, les manœuvres se tiendront du 1er au 6 septembre en Biélorussie, pays qui assure actuellement la présidence de l'OTSC. Des représentants de l'Arabie Saoudite, de l'Iran, de la Chine et de la Mongolie y assisteront en tant qu'observateurs, a ajouté le haut gradé. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. Le prix du gaz naturel a augmenté aux États-Unis et en Europe. Des inquiétudes concernant des problèmes de main-d'œuvre toujours non résolus dans les installations australiennes d'exportation du gaz naturel liquéfié, GNL, ainsi que la maintenance planifiée, réduisant les livraisons de gaz par le gazoduc norvégien vers l'Europe, ont fait grimper les prix du gaz naturel aux États-Unis et en Europe, selon le site web Oil Price. Lundi matin, 28 août, le prix du gaz naturel aux États-Unis était en hausse de 2,6%. Dans le cadre des contrats à terme du hub néerlandais TTF, référence pour le commerce du gaz en Europe, les prix ont augmenté d'1,9% et atteint 35,08 $ par mégawatt. Après que les opérateurs norvégiens ont interrompu samedi l'approvisionnement du champ gazier géant de Troll en raison d'une maintenance régulière et ont déclaré que la maintenance était également en cours dans les champs livrant du gaz vers le réseau Segal au Royaume-Uni, les prix du gaz européen ont augmenté de 4% au début des négociations. La baisse de l'approvisionnement en provenance de Norvège, qui a remplacé la Russie comme étant le principal fournisseur de gaz de l'Europe, a fait grimper les prix européens, ainsi que les problèmes toujours non résolus entre les syndicats et Chevron, deuxième compagnie pétrolière des États-Unis, concernant les installations australiennes de GNL. À la fin de la semaine dernière, le syndicat des travailleurs australiens a conclu un accord de principe avec Woodside Energy, compagnie pétrolière basée en Australie, sur les salaires et les conditions de travail, ce qui a permis d'éviter une grève dans les installations de North West Shelf de Woodside. Cela a fait chuter les prix du gaz européen jeudi. Cependant, il y a toujours le risque de grève dans les installations de Chevron aux États-Unis. Lundi, les travailleurs ont voté pour permettre à leur syndicat de déclencher des grèves si nécessaire. Les syndicats doivent déposer un préavis de 7 jours avant le mouvement. Dans ce draft, les représentants de Chevron ont déclaré à Reuters que l'entreprise poursuivait les négociations afin d'atteindre un bon résultat tant pour les travailleurs que pour l'entreprise. Pendant ce temps, les importations européennes de GNL ont chuté de 18% la semaine dernière, avec davantage d'expéditions vers l'Asie.